Que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Nelson Mandela, homme politique, né le 18 juillet 1918 à Mvenzo, en Afrique du Sud, décédé le 5 décembre 2013. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale. L'apartheid avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 4 mai 2023. Bienvenue sur Radio Valois-Mulcien dans l'émission Pédago-Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Ces associations sont représentées par nos fidèles chroniqueurs. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Notre thème du jour, Bac et Parcoursup. Et pour cela, nous recevons Madame Géraldine Minet, professeure de mathématiques au lycée Pierre Dailly de Compiègne. Et nous aurons aussi des interviews de Johan, professeur d'histoire et géographie. Nous allons commencer par demander à Géraldine de se présenter.
Bonjour, donc effectivement, je suis enseignante au lycée Pierre Dailly de Compiègne en mathématiques depuis une dizaine d'années, je dirais, à la louche. Et je suis enseignante depuis bientôt 20 ans. Je pense maintenant. Pour l'essentiel, j'ai passé ma carrière au lycée. Donc j'ai suivi un petit peu toutes les évolutions du bac,
les
des filières et toutes les réformes successives. Et on en a eu un certain nombre.
Oui, il y en a trop. Sans bilan d'ailleurs, on le dit toujours.
Sans bilan à chaque fois. Et donc la nouvelle qui concerne l'émission aujourd'hui, qui bouleverse pas mal les habitudes et les souvenirs qu'on a, nous, de notre génération, ou en tant que parents, en tête par rapport à ce qu'on a vécu au lycée. Et je suis, aussi, je voulais le rajouter, militante au SNES OASE, donc syndicat des enseignants.
National
des enseignants du secondaire.
Du secondaire, oui. Voilà. D'accord, merci. Un petit billet d'humour ou pas aujourd'hui,
oui, Gérard? Oui. Quand Allez. J'ai vu le thème Bac Parcoursup, je me suis dit, chouette, un jeu aquatique. Donc, j'ai cherché ce que je pouvais faire. Donc, j'ai surfé sur les académies. Je me suis noyé dans les inscriptions. Et après 2 heures d'apnée sur toutes mes hésitations, j'ai abandonné. Et je me suis dit, il faut être complètement barge pour inventer un tel. Sylvie, présente-nous.
Mais oui, je vais te présenter. Alors, décriée encore et toujours, la réforme du bac voulue par M. Blanquer ne fait guère l'unanimité côté des syndicats des professeurs et des fédérations de lycéens, même voire des fédérations de parents d'élèves. Que dire de la plateforme Parcoursup dont les critères de sélection ne sont toujours pas dévoilés et restent donc opaques? Que faire pour comprendre et améliorer cette réforme? Que propose le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Niad? On va en parler. Alors, dans sa dernière allocution, le président de la République, M. Macron, a annoncé une accélération de certaines réformes, dont celle de l'école, revalorisation des salaires, la rémunération de missions complémentaires, la laïcité, le remplacement de courte durée des professeurs absents via le volontariat, avec la pénurie de profs, challenge pour le gouvernement. Et à cela s'ajoute, via le projet de loi des finances, 1500 postes en moins d'enseignants. Dès la prochaine rentrée, donc, pour trouver des remplaçants, ça va être compliqué, je crois. La réforme du lycée professionnel, même le privé a ses recommandations, végétalisation des écoles, etc., etc. Alors, l'autonomie via des contrats des établissements scolaires, une efficacité pour la réussite des élèves, qu'en pensons-nous? Et je voudrais me retourner vers Géraldine. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de l'allocution qui pourrait ouvrir des portes sur une entente avec les syndicats? Qu'est-ce que tu penses de cette allocution de M. Macron? En plus, il va en faire une aujourd'hui sur les lycées professionnels.
Alors, pour ce qui concerne les relations avec les syndicats, je suppose que l'allocation améliore ces relations, puisque tous les syndicats ont quitté la table des négociations autour du pacte pour afficher leur désaccord unanime. Et là, dans l'allocution, M. Macron acte, en fait, le pacte. Donc, je pense que ça va être compliqué pour la suite des échanges et des discussions.
D'accord. Elisabeth Borne ne devait pas essayer de recontacter les syndicats? Non, il n'y a pas eu du tout d'effort
à ma connaissance. À ce niveau-là. On était resté là-dessus sur les syndicats qui s'étaient levés. Mm-hmm. Et concernant le contenu des annonces, qui est du coup pas vraiment une surprise, l'augmentation, quelle qu'elle soit, c'est toujours une bonne nouvelle. Hein. Je pense que personne crachera dessus.
Bien sûr, oui.
Après, cette revalorisation, elle était attendue et elle devait répondre à, je pense, deux aspects. D'abord, la perte du pouvoir d'achat des enseignants qui est reconnue, qui est chiffrée, je dirais à la louche de ce que j'ai entendu, autour de moins 20% ces 20 dernières années. Mmh. Et cette revalorisation, elle devait aussi permettre de régler l'énorme problème de recrutement des enseignants. Voilà, et je pense, et je ne suis pas la seule à le penser, que ce qui est proposé là ne suffira pas ni pour le premier problème du pouvoir d'achat, ni pour ce qui est d'attirer et de susciter des vocations et motiver. Sachant que, juste pour cette première partie de revalorisation, donc socle, c'est-à-dire qu'elle est inconditionnelle et elle sera pour tous les enseignants, pas sur le même montant, mais pour tous les enseignants, il s'agit d'une prime, en fait, donc qui ne comptera pas pour les retraites, puisqu'on parle pas mal des retraites en ce moment. C'est pas le point d'indice qui est augmenté, c'est l'augmentation d'une prime.
Ouais. D'une prime,
parce
voilà.
Que la majorité du temps, c'est sous forme de prime.
Oui, ces derniers temps, en fait, temps, depuis, je crois que le gel du point d'indice, ça date depuis de 2010, par là, ouais, 2000, ça fait tellement longtemps. Et les augmentations qu'on a eues, effectivement, c'est des primes qui sont distribuées soit en ciblant un certain public, certaines parties des enseignants, soit de manière plus large. Mais effectivement, c'est pas ce que réclament les syndicats, à savoir une revalorisation du point d'indice, un déblocage du point d'indice.
Mais qui le calculera, ces primes ?
Comment ?
Qui les calculera, ces primes ?
Elles sont... Déjà, il a donné des chiffres, donc je suppose qu'elles sont déjà calculées. Je ne sais pas exactement de quelle façon. C'est par rapport, il me semble, lié à la prime du suivi des élèves qui va augmenter. Alors, je ne sais pas si c'est doublé ou dans quelle proportion. C'est ça qui va amener c'est une partie de l'augmentation pour tous les collègues, donc les femmes autour de 100 euros. Et après, pour ce qui est des premières années, il y a une augmentation spécifique pour les débuts de carrière pour, je ne sais pas, atteindre les fameux 2000 euros. Non, c'était 2000, la promesse d'Emmanuel Macron. Donc voilà. Et après, pour la partie pacte, en fait, là, on est plus sur une revalorisation puisqu'on est sur du travail supplémentaire qui sera rémunéré.
Rémunéré, voilà, c'est ça.
Et heureusement, c'est... on travaille davantage. Quoi.
Et puis pour le remplacement, moi je tenais à le dire parce que nous on va dans les écoles primaires, quand un professeur est absent, souvent on voit bien un autre professeur qui récupère un certain nombre d'élèves pour effectivement que les élèves aient cours quand même. Donc on voit déjà qu'il y a, alors ils sont peut-être pas au courant au gouvernement, mais on voit déjà qu'il y a une entraide entre professeurs dans les écoles
primaires. C'est déjà une possibilité qui est offerte. Alors depuis, je me souviens pas, j'ai pas les dates, mais depuis très très longtemps, même dans le secondaire, à un moment, dans les salles des enseignants, des salles des profs, on avait des tableaux dans lesquels étaient inscrites les absences des collègues et on pouvait s'inscrire si on le souhaitait. Mais pour moi, c'est pas du remplacement. Dans le secondaire, non. En tout cas, le primaire, c'est pas la même chose. Dans le secondaire, parce que si je vois une heure qui est laissée vacante par l'absence d'un collègue dans une de mes classes et que je l'apprends. Déjà, ça nécessite quand même que les emplois du temps soient coïncides. Je vais aller faire des maths parce que moi, je suis enseignante de maths. Donc, je ne vais pas remplacer les élèves qui n'auront pas leur enseignant de français. Ils n'auront toujours pas d'heures de français. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas d'avoir un adulte devant une classe pour faire une activité quelle qu'elle soit. Ils ont besoin, il y a un programme, il y a un nombre d'heures dans l'année, et ça, de toute façon, ça ne sera pas rétabli. Et là, tu faisais mention de 1500 postes en moins, mais depuis 2017, on approche des 8000.
Ah, 8000, là, quand même, oui. Alors, effectivement, pour le recrutement, c'est très compliqué.
Pour le recrutement, c'est très compliqué, oui.
Bon, on verra ce que ça donne. Qu'est-ce que tu penses de l'autonomie via des contrats au niveau des établissements scolaires ?
L'autonomie, c'est pareil, je disais en présentation que j'avais suivi quand même un certain nombre de réformes depuis le temps que je suis dans l'éducation nationale. Et souvent, l'autonomie est mise en avant, et c'était le cas dans la dernière de Monsieur Blanquer, comme justement un argument fort d'efficacité en soulignant le fait qu'on peut de cette façon répondre aux besoins des élèves et être au plus près en fait des problématiques locales, et donc mieux résoudre les problèmes, apporter une aide qui soit plus ciblée, etc. Ce qu'on voit, c'est que cette autonomie des établissements et du chef d'établissement qui augmente depuis... Pareil, je ne sais pas, je ne vais pas donner des dates, mais ça fait quand même un certain temps que toutes les réformes, cette réforme qui nous concerne au lycée là, la réforme précédente du collège, c'était le cas aussi, je pense celle d'avant du lycée déjà, c'est plutôt une déréglementation. Voit s'accroître la concurrence entre les établissements, avec des inégalités d'offres, parce qu'en fait, on a la part d'autonomie dans la dotation horaire que reçoit chaque établissement qui augmente, mais le volume global, il reste assez contraint et il est plutôt en diminution ces dernières années. Donc en fait, ça induit des choix au niveau de l'établissement et du coup, de la concurrence entre les disciplines, voire entre les collègues aussi. C'est assez malsain.
C'est vrai que les lycées, maintenant, on voit apparaître des tableaux et donc ils sont notés. On met le meilleur lycée. Et a priori, on veut faire exactement la même chose avec les collèges. On veut noter les collèges entre eux, ce qui est un petit peu dommage de les mettre comme ça en concurrence.
Oui, parce que du coup, ça accroît les inégalités, parce que les établissements, on parle aussi d'autonomie dans le recrutement, mais les établissements et les académies n'ont pas le même pouvoir d'attractivité. Ça va se traduire, et ça se traduit déjà, par des inégalités scolaires qui vont s'accroître. Et pour, à l'inverse de ça, pour garantir l'égalité sur tout le territoire, il faut au contraire garder un cadrage national, que ce soit au moins pour les programmes, les horaires et les contenus, l'offre scolaire. Après, laisser une part d'autonomie pour des projets ou essayer de mettre en place tel ou tel souhait pédagogique qui émanerait de l'équipe pédagogique, de l'équipe enseignante, oui. Mais l'essentiel, pour moi, doit rester fixé par un cadrage, national.
D'accord, sur tout le territoire.
Et on abandonne dans ce cas-là le fait qu'un directeur ait le droit de choisir ses professeurs.
C'est ça.
Ça a été testé à un moment donné, parce qu'il y a eu tellement de réformes que beaucoup de choses ont été testées, c'était sous Sarkozy, il me semble. J'étais à ce moment-là au collège Gaëtan Denain de Compiègne, et il était estampillé collège Éclair.
Ah oui, éclair.
Alors, je ne sais plus exactement ce que ça voulait dire, ce cycle. Initiative.
Ils ont toujours des beaux mots.
Hein. Voilà. Et donc, dans ces collèges éclairs, il y avait justement la possibilité de recruter directement et sur dossier des enseignants. Et je ne suis pas sûre que c'est très bien marché, que c'est très bien fonctionné.
L'avenir nous le dira que ça va donner un petit peu cette autonomie. Alors, on va reparler de la plateforme Parcoursup, qui n'examine aucun dossier et ne procède à aucun classement de candidature. L'analyse des vœux des candidats est effectuée par des enseignants des établissements supérieurs lors d'une commission. Les propositions d'admission seront envoyées via la plateforme Parcoursup. On nous parle souvent d'égalité des chances et d'accès aux études supérieures. Cette réforme a-t-elle montré une amélioration ou les inégalités persistent-elles ?
Parcoursup arrive dans un moment, alors qui est là depuis des dizaines d'années, où on a un nombre croissant d'élèves qui sont diplômés et qui ont le baccalauréat, qui est normalement le premier grade universitaire, et donc doit garantir une formation publique universitaire. Face à ça, des places dans le supérieur qui sont en nombre largement insuffisant.
Insuffisante, c'est limité, oui.
Et donc, en fait, on a Parcoursup qui est à la fois une plateforme d'information, c'est-à-dire qu'on trouve, et je crois que ça a évolué depuis qu'elle a été mise en place, quasiment l'intégralité des formations en ligne sur le site. Donc, c'est une ressource énorme, en fait, si on sait l'utiliser. Toutes les formations sont présentées. Et c'est aussi c'est pas seulement ça, c'est aussi une plateforme d'orientation avec la sélection qui va avec. Donc il y a un algorithme sur la plateforme et puis après il y a des algorithmes locaux ou des commissions qui effectivement examinent les dossiers.
Oui, c'est ça, oui. Lors de la phase d'inscription sur Parcoursup, les candidats manquent-ils d'informations, notamment sur les algorithmes non révélés, et connaître les critères de sélection permettrait sans doute de mettre en toutes les chances du côté des jeunes, en fin de compte.
Alors, en fait, sur la plateforme, si on va sur la page de chaque formation, elle indique assez clairement le nombre de places offertes, le nombre de candidats qu'elle a reçu l'année précédente, je crois le rang du dernier admis sur liste d'attente, donc ce genre de statistiques qui peut évoluer d'une année à l'autre, mais qui peut être un indicateur aussi.
Oui, qui permet aux jeunes de réfléchir, voilà. Effectivement. Oui.
Et surtout, elle indique quand même assez clairement les attendus et les points sur lesquels eux vont porter leur sélection. Et ça donne une indication notamment aux élèves dès la seconde pour savoir s'ils sont intéressés par cette formation, vers quelle spécialité ils vont devoir se tourner. Maintenant, pour revenir à la question des inégalités, c'est pas parce qu'on a toute cette offre qui est mise à disposition avec des critères assez clair si on va sur telle ou telle formation que ça rend les élèves dans une même position face à tout ça, parce que en fait il faut savoir faire le tri, il faut savoir aller chercher l'information, et c'est là-dessus qu'on va avoir de fortes disparités. Alors nous dans les établissements on fait le boulot, donc on a des heures d'aide personnalisée à l'orientation, sachant qu'on n'est pas spécialement formé pour le faire, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Donc on est là pour les aider, leur donner des conseils, les guider, essayer. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils doivent faire aussi à titre personnel. Et c'est là qu'intervient tout le capital familial, culturel et tout ce qui va avec pour aller faire des portes ouvertes, aller sur des forums, écouter des conférences, rencontrer des étudiants, aller sur les sites, tout ce genre de choses. Et il y a également tout le dossier qu'il faut compléter ensuite. Un gros travail avec les lettres de motivation, notamment.
Au niveau des élèves, quelles sont leurs demandes en priorité quand ils sont un peu perdus dans leur inscription? Est-ce qu'ils vont voir les professeurs pour se faire aider?
Je pense que ça dépend des élèves. Alors, moi, je ne suis pas professeure principale en terminale, et c'est plutôt les collègues, parce que maintenant, chaque classe a deux professeurs principaux en terminale qui sont en charge de ces questions-là. Je pense que les élèves font avec ce qu'ils ont à disposition dans leur entourage. Donc, ça passe par la famille, par les amis. Aller également voir les enseignants qui peuvent être pour certains les seuls référents, mais c'est aussi une certaine responsabilité d'aiguiller, parce que nous aussi on leur donne les informations que l'on a, les conseils que l'on a, mais qui sont pas forcément les bons non plus. Mais en tout cas au lycée ils peuvent quand même trouver un certain nombre de réponses, mais est-ce suffisant? Je suis pas sûre. Et chaque établissement organise aussi ses heures comme elle l'entend. Certains établissements vont avoir la possibilité d'organiser des forums. Nous, je sais que déjà au lycée Pierre Dailly, on a un certain nombre de classes préparatoires à notre disposition. On a maintenant un BTS. Donc c'est vrai que déjà sur place, les élèves peuvent prendre contact et échanger avec des étudiants de ces classes prépa. Ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Donc c'est un peu au cas par cas. Et c'est là où on a encore ces inégalités qui qui se maintiennent en tout cas.
Oui, je pense que c'est plus facile, mais... effectivement, sur Paris, parce qu'il y a beaucoup de forums, notamment le salon des étudiants. Donc là, il faut que ce soit les parents qui apportent les enfants dans ce salon. Mais il y en a un, et c'est, ça ne s'appelle pas le forum des étudiants à Amiens. Je pense que tous les
Amiens... aussi, et c'est vrai qu'on les amène.
Ok, alors on va parler des options maintenant. Alors en seconde, nous avons des options non obligatoires, mais qui restent un plus pour approfondir ses connaissances sur le futur métier choisi. Or, trois spécialités sont obligatoires dès la première. Seulement deux seront conservées en classe de terminale avec un coefficient de 16, ce qui est énorme. On a l'impression que tout est joué, coup qu'on a passé un peu ses spécialités. Alors, cela doit permettre d'affiner donc son projet d'orientation, bien choisir ses spécialités pour faciliter l'entrée dans les études supérieures. Ces spécialités, est-ce que vous avez remarqué, ou est-ce que tu as remarqué plutôt, est-ce qu'elles ont motivé les lycéens à se projeter plus vers l'avenir et peut-être à prendre un peu plus au sérieux leur orientation ?
C'est difficile à dire. En tout cas, elle leur a mis la question sous le nez, si je puis dire, très, très tôt à l'entrée du lycée, puisque dès la classe de seconde, il faut qu'ils se posent toutes ces questions. Et c'est vrai que la réforme du lycée, elle a suivi très rapidement la réforme de l'enseignement supérieur, enfin de l'entrée dans l'enseignement supérieur et donc la mise en place de Parcoursup, parce que c'est un tout. Et donc, dès la classe de seconde, il faut justement qu'ils aillent déjà chercher cette information. Et c'est là aussi où c'est compliqué pour eux. C'est pas qu'ils ne sont pas motivés, mais c'est qu'ils sont un peu perdus. Il faut les aider. Et plus l'orientation se fait tôt, et plus on a un risque aussi de reproduction de ce qu'on connaît. Et c'est vrai que notamment, moi en tant que prof de maths, c'est un sujet auquel je suis sensible, mais je pense qu'il concerne quand même tout le monde. Les inégalités en termes de choix de la spécialité mathématique entre les filles et les garçons. Et ça se passe dès la classe de seconde, où c'est une spécialité qui est bien moins choisi, et on a un pourcentage de filles qui poursuivent maths qui est quand même en baisse. Et qui du coup de fait se poursuit dans le supérieur, puisque si elles choisissent pas la spécialité maths, elles vont pas pouvoir s'orienter vers des études scientifiques. Donc c'est assez tout ça est assez complexe, et puis là aussi l'entourage familial compte, je pense, parce que en seconde il faut essayer de voir à plus ou moins long terme, c'est-à-dire ce qu'on veut faire après dans le supérieur. Et à la fois, on est tenté aussi, avant le supérieur, il y a quand même le bac, et donc de choisir des spécialités dans lesquelles on pense pouvoir avoir des notes pour avoir un meilleur dossier. Donc il faut trouver cet équilibre-là aussi.
Oui, et c'est c'est aussi par rapport à ce que proposent les lycées au point de vue spécialité, parce que les élèves aussi, se retrouvent pas forcément dans les spécialités qui sont proposées dans les lycées. Donc il y a aussi un problème d'inégalité.
Il y a aussi un problème
et de mobilité, parce que les élèves peuvent pas aller forcément dans les
endroits.
Alors
quand on est, pour parler de Compiègne, comme on est, moi je suis à Pierre Dailly, on a le lycée Mireille Grenet qui est pas très loin. Donc jusqu'à présent, je sais pas si ça va se poursuivre, mais je pense.
Il y avait quand même une entente entre les deux.
Voilà.
Lycées,
alors ça complexifie quand même l'organisation. Organisation qui, dans cette réforme, est quand même assez compliquée, d'un point de vue très pratique, d'emploi du temps, de salles, de choses comme ça au lycée. Mais il y a la possibilité d'aller suivre la spécialité sciences de l'ingénieur à Grenay, que l'on n'a pas à Pierre Dailly. Donc, mais c'est parce qu'on a la chance d'être
pas très loin.
Voilà. Pour des lycées plus ruraux qui sont isolés, ils n'ont pas vraiment tous les choix de spécialité. Et c'est en ça que cette réforme, elle est inégalitaire, parce que le choix des spécialités se répercute sur les possibilités que l'on a sur l'enseignement supérieur après. Donc.
Pourquoi cette baisse d'attractivité au niveau des maths pour les filles ? Parce que moi, je me souviens, mes deux enfants ont fait tous les deux scientifiques. Et à l'époque, il y avait beaucoup de filles.
Oui, alors il y avait beaucoup de filles. Il y a eu un travail de fait pour quand même augmenter le pourcentage de filles en série S. Et là, il y a vraiment une chute depuis la mise en place de la réforme du lycée. Donc je ne sais pas si on peut parler d'autocensure ou de reproduction de stéréotypes du fait du choix plus précoce de l'orientation et des spécialités.
Et, oui, parce qu'avant, ils choisissaient leur spécialité qu'en première, quoi,
ils choisissaient.
C'était plus une seconde un petit peu générale et après.
Alors là, c'est pareil aussi, ils choisissaient leur filière dès la première, mais ça restait peut-être plus ouvert que.
Plus ouvert, oui.
Ou alors ça leur paraissait plus ouvert, parce qu'il y a quand même beaucoup de passerelles, mais. Là, ça reste quand même à la marge. Là, peut-être que ça leur paraît déjà plus fermé. Et la spécialité mathématique, dès le départ, elle a été présentée comme très exigeante et très difficile. Et je pense que ça a freiné un certain nombre et davantage les filles que les garçons qui ont eu du mal à se projeter dans cette spécialité.
D'accord. On va suivre l'interview de Johan. On va voir un petit peu son ressenti global.
Bonjour Johan, quel est ton avis sur le système Parcoursup et le ressenti que tu peux voir par rapport à tes élèves et aussi au niveau du global?
Alors, en ce qui concerne Parcoursup, alors déjà, il faut savoir qu'on aura les réponses uniquement à partir de fin mai. Les réponses vont arriver fin mai pour les premières et puis tout au long de l'été pour les suivantes. Le gros problème de Parcoursup, c'est d'ailleurs ce temps de réponse qui généralement est assez long et qui peut angoisser les élèves, surtout quand ces derniers n'ont pas de réponse fin mai, début juin, voire même mi-juin parfois, voire mi-juin parfois. Du coup, on se retrouve avec effectivement des élèves qui n'ont pas de réponse rapidement. Après, le second défaut, s'il y en a un pour Parcoursup, c'est un défaut aussi qui est lié donc à la formulation des vœux et puis au retour que nous, établissement de provenance, faisons. C'est-à-dire qu'on va devoir mettre des retours sur les acquisitions de nos élèves. Ça reste, pour l'heure, je trouve que c'est assez basique. On nous demande si c'est acquis, c'est plus ou moins acquis, en voie d'acquisition, non acquis, mais c'est doit faire ses preuves, assez satisfaisant, satisfaisant, très satisfaisant. Les nuances entre le satisfaisant et le très satisfaisant sont assez difficiles à déterminer. Les visions, les différences entre le satisfaisant et le assez satisfaisant sont également difficiles à déterminer. Donc c'est quand nous on envoie pour les établissements du supérieur donc nos remarques, c'est assez particulier je trouve. C'est peut-être les deux défauts de Parcoursup, le temps de réponse et puis effectivement le côté un petit peu pas arbitraire, mais le côté un petit peu gadget des éléments que l'on met sur les retours. D'ailleurs, tout n'est pas lu, puisque les profs de supérieur nous avaient dit lors d'une réunion que tout n'était pas lu. Hein. Certains vont s'attacher davantage aux lettres de motivation, d'autres aux résultats. Enfin, c'est assez difficile, ça reste toujours assez opaque.
D'accord. Merci alors.
Voilà, donc ça c'était donc Johan, hein. Lui il dit que c'est un petit peu le côté gadget pour noter une remarque sur les dossiers des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses toi Géraldine?
En fait il y a la fiche à venir qui accompagne le dossier de chaque élève qui contient les notes de l'année et les appréciations des enseignants sur discipline par discipline, mais également, et là c'est là où c'est peut-être discutable, il y a une appréciation générale qui est censée évaluer la capacité de l'élève
poursuivre.
À réussir dans cette formation. Et là c'est quand même un peu de la spéculation. Nous on sait évaluer dans notre discipline ce que sait faire l'élève par rapport à des exigences de lycée, de terminale en l'occurrence. Après, savoir comment il va réussir. Donc, on essaye de mettre quand même quelque chose. Mais effectivement, ça peut paraître compliqué. Sur le premier point qu'il a souligné, ces délais d'attente, c'est effectivement un problème parce que c'est une source de stress pour ceux qui n'ont pas un vœu qui leur convient dès le départ. Et il y a une phase, donc ils sont sur des listes d'attente, et il y a une phase pendant laquelle chaque jour, ils vont voir l'application s'ils ont remonté dans la liste d'attente. C'est quand même pas très confortable, je pense. J'ai pas vécu, mais je l'imagine.
J'imagine,
pour ces élèves.
Ok, on va peut-être écouter l'intermède musical.
J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons. J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Tu vois, c'est tellement mieux quand on est sûr de soi, que l'on porte au bout des doigts de la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en n'ayant peur de rien, de sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue. En parler, c'est si léger, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage, 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 du courage. Forêt, que les bras m'en tombent comme le petit poussé des cailloux, j'en ai trouvé, mais la question que je me pose sans cesse où je pourrais trouver du courage.
Nous venons d'écouter la grande Sophie, du courage. Notre thème du jour, bac et Parcoursup. Pour cela, nous recevons Madame Géraldine Minet, professeure de mathématiques au lycée Pierre Dailly de Compiègne. Et nous aurons également des interviews de Johan, professeur d'histoire et de géographie. Avant de poursuivre, un petit billet d'humeur, de Jacques.
L'humour, c'est un important facteur. Moi, ça sera un petit peu plus un billet d'humeur. Donc, concernant tout ce thème de réforme du bac et de Parcoursup et ces nouvelles déclarations de notre président concernant une réforme globale de l'école, mais aussi, là, dans peu de temps, ce qu'il va nous dire concernant la réforme du lycée. Mais malgré ça, on s'aperçoit que toutes ces mesures ne sont pas forcément nouvelles. C'est des mesures qu'il a piochées déjà dans ce qui était fait avant. Et ça... C'est un peu la conclusion que je me fais. Est-ce que ces mesures vont être faites pour apaiser le monde de l'école? Ça, c'est autre chose. C'est une réflexion à se faire.
On verra par la suite. Je crois qu'on va le savoir très rapidement. Alors, nouveauté cette année, les examens des spécialités ont donc débuté fin mars. Une façon de permettre aux lycéens de réviser au coup par coup des matières. Non, c'est pas ça. Hein. Si, c'est ça. Pour empêcher le bachotage qui a parfois des effets contre-productifs. Les syndicats de professeurs ont communiqué leur mécontentement auprès de M. Niad en spécifiant que les examens étaient trop tôt pour certains, une façon de séquencer les examens pour d'autres. Qu'en pense le SNES, en fin de compte, Géraldine ?
Le SNES, comme les autres syndicats, demande depuis la mise en place de la réforme de chaque année de décaler au mois de juin ces épreuves de spécialité. Là, c'est la première fois où elles ont eu lieu telles que prévues par la réforme, c'est-à-dire au mois de mars.
C'était vers le 20, ouais, 20, ouais, 20 par 22, là.
L'objectif, au-delà d'éviter le bachotage, c'est d'avoir des notes pour Parcoursup qui auraient un caractère national, justement pour éviter le biais du contrôle continu ou au moins essayer d'avoir un point de repère pour les formations dans la sélection des étudiants, enfin de leurs futurs étudiants. Concernant donc ces épreuves au mois de mars, je pense que les enseignants, donc les syndicats, mais les enseignants sont unanimement hostiles à cette date-là et contre. Et là, maintenant qu'on a pu le tester, on l'est davantage encore. J'ai pas l'impression que ça a évité le bachotage. Pour moi, j'ai l'impression que c'est même l'effet inverse, parce que ça a été la course contre la montre pour terminer le programme dans les temps. Et quand c'est la course contre la montre, ce qu'on fait, c'est pas faire réfléchir les élèves sur des notions, essayer d'approfondir, voir
c'est
ce qu'on peut en faire.
Apprendre
là,
pour
c'est
apprendre.
Apprendre pour apprendre dans l'objectif de passer et de réussir au mieux cette épreuve qui arrive. Et c'est vrai que c'est assez déroutant, je trouve. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai eu l'impression de faire quelque chose, pas d'anti-pédagogique, mais enfin pas loin, de ne pas être vraiment à l'écoute des élèves. Et par rapport à ma discipline, notamment les maths, où la place de la démonstration est quand même très, très importante, de des fois la bâcler un peu pour aller à l'efficace et vers les notions et faire qu'elles soient acquises par le maximum de mes élèves pour cette épreuve, parce que les notes des deux spécialités ont quand même une énorme importance et dans l'optation du bac et dans Parcoursup.
Par contre, c'est vrai que ça a été choisi fin mars, parce qu'après il y avait les vacances d'avril qui arrivaient, et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus opportun de les mettre en mai.
Encore une fois,
ça aurait permis aussi aux élèves, aux jeunes, de réviser pendant les vacances. Ils avaient 15 jours de vacances.
Ça allait à l'encontre de ce qui est voulu par la réforme, à savoir que ces deux notes rentrent dans le processus de Parcoursup. Et le mois de mai, c'était déjà trop tard pour ce processus. Donc c'est cet impératif-là qui est donné. Au-delà de l'effet sur l'enseignement et les élèves de terminale qui n'ont pas de recul sur les notions acquises, parce que là, on voit les chapitres par an, on n'a pas le temps vraiment de revenir. Ils n'ont pas le temps de bien totalement maîtriser.
Mais est-ce que les programmes ont été terminés aussi, puisque ça fait quelques mois
non.
en moins
donc, Alors, juste pour avant de rester sur les terminales, par rapport au lycée, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça a impliqué une désorganisation du lycée, parce qu'il y a quand même trois journées qui sont complètement banalisées, c'est-à-dire que les secondes et les premières n'ont pas cours pendant ces trois jours. Donc, on sait en plein milieu du mois de mars et à deux ou trois semaines des vacances suivant les académies, c'est pas évident d'avoir un travail sur la continuité quand il y a ça. Et ensuite, il faut voir qu'on a un temps imparti assez court pour corriger les copies. Donc, on peut poser jusqu'à 4 demi-journées pour avoir le temps de les corriger. Ce qui fait que même quand les épreuves ont été passées, le retour à la normale n'a pas eu lieu tout de suite après les épreuves, puisque les élèves avaient des trous dans l'emploi du temps. Moi, j'ai posé trois demi-journées pour corriger, parce que ça prend du temps et je ne peux pas faire tout en même temps. Donc ça veut dire que mes élèves de seconde et de première ont continué à rater des cours de maths, et ceux dans telle discipline. Donc là, il leur manquait des cours de maths, là, il leur manquait des cours d'un collègue qui aussi, lui, a su... Donc, en fait, c'est quand même une désorganisation et une démobilisation qui va au-delà des élèves de terminale, juste pour rester là-dessus. Et... j'ai oublié la suite de
moi
la question.
Moi aussi, j'ai oublié la suite de la question.
Sur le programme.
Je suppose que le programme est resté le même.
En fait, on a maintenant deux programmes. C'est-à-dire qu'on a un programme pour l'année scolaire, ce qu'on avait habituellement. Et parmi ce programme-là, on a un sous-programme, si je peux appeler ça comme ça, qui doit être fait pour l'épreuve de spécialité qui évaluera les connaissances sur un certain nombre de chapitres. Donc, en fait, on a le programme à terminer pour le mois de mars. Et ensuite, en maths, j'ai encore des chapitres qui sont importants pour les élèves qui veulent poursuivre des études scientifiques l'année prochaine à faire dans le temps qui reste. Mmh. Et c'est là où on a la suite du problème de ces épreuves de spécialité qui se déroulent très tôt. C'est que les élèves et en même temps, c'est normal aussi, sont quelque peu démobilisés. Ils ont eu leurs notes. Là, ils sont dans Parcoursup. Ils ont... en même temps un certain nombre d'entretiens, voire de concours à passer pour compléter leur dossier. Donc ils ne sont plus complètement là pour continuer les cours de façon classique. Je ne parle pas des ponts du mois de mai parce que la personne n'y est pour rien, c'est ainsi.
C'est ça, oui.
Mais c'est vrai que ça aide pas. Et pourtant, nous, notre objectif de la classe terminale, c'est de les amener jusqu'au bac, mais c'est aussi de les préparer pour le supérieur. Et là encore, ça va être un objectif à remplir très, très compliqué. Moi, il me reste des chapitres qui sont quand même importants pour la suite, alors que je vais faire, hein, mais face à qui, je ne sais pas.
Après, qui sera là ?
Ceux qui sont là, ils sont là, ils sont sérieux, ils travaillent en classe. Mais
pourquoi il y a un taux d'absence important ?
Évident.
Je pense que, oui, maintenant...
J'ai pas de retour. Je pense que, là encore, c'est très variable suivant les établissements, en fonction des élèves. Mmh. Est-ce qu'ils sont suivis, pas suivis ? Dans quel établissement ? Est-ce que les familles regardent un peu ce qu'ils font ? Donc là encore, c'est très variable. Moi, j'ai des élèves qui sont globalement présents, c'est des élèves qui sont sérieux en classe, qui sont présents, mais là, s'ils sont absents, c'est parce qu'ils ont d'autres choses en parallèle aussi. Donc, il y a tout un tas de choses qui font que c'est désorganisé. À la suite des épreuves de spécialité, il y a aussi des épreuves orales qui se passent au sein de l'établissement. Donc, les élèves, sur certaines heures de cours, ils sont absents parce qu'ils ont leurs épreuves orales de langue à passer. Ils peuvent avoir des épreuves pratiques suivant les spécialités qu'ils ont choisies aussi. Donc, tout ça, c'est pareil. À la fois, d'un côté, ça mobilise des enseignants qui ne peuvent pas assurer leurs cours pendant ce temps-là. Et c'est des heures que manquent les élèves en fonction de leur convocation. Donc tout ça fait que, à partir du mois de mars, on a quand même un sentiment de démobilisation générale. Et on n'a jamais vécu ça à ce point-là, quand même. C'est vrai que ça nous fait sourire quand on repense à ce que racontait M. Blanquer. Il en a raconté beaucoup, mais en parlant de la fameuse reconquête du mois de juin, là, on a l'impression qu'on a perdu le mois de mars, avril. C'est un peu compliqué.
On va écouter l'interview de Johan sur les épreuves de spécialité, justement.
Examens de spécialité fin mars, c'est une aberration, du moins c'est un non-sens à minima, puisque fin mars on va retrouver donc des examens de spécialité, donc les gros COEF, hein, COEF 16 pour nos élèves, des coefficients qui sont bien plus importants que l'ensemble du tronc commun, et donc les élèves effectivement quand ils sortent de ces spécialités, déjà ils sont très stressés, ces spécialités ça force les collègues enseignants en spécialité de se hâter pour avancer dans le programme, parfois à coup de polycopier, puisqu'il faut finir pour le mois de mars pour que les élèves aient le temps de réviser. C'est pas toujours le cas, il suffit de quelques absences, il suffit de quelques problèmes durant l'année, quelques jours fériés pour qu'il y ait du retard. Fin mars, les examens sont passés, et puis là, avec Parcoursup, vu qu'il fallait que les résultats soient implémentés dans Parcoursup, les élèves ont eu leurs résultats le 12 avril. Ce qui veut dire qu'arrivé le 12 avril, nos élèves ont... une bonne partie de leur bac est déjà actée. C'est-à-dire que ne reste que la seconde partie, donc le tronc commun, et le tronc commun qui a une valeur bien moindre que les écrits de spécialité. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des élèves qui, dès le mois d'avril, commencent à dire « Oui, bon, bah, sinon l'année, elle est finie. » Et de fait, il est difficile de leur donner tort, l'année, elle est quasiment terminée. On se retrouve donc avec une reconquête non pas du mois de juin, non pas du mois de mai, mais bientôt une reconquête du mois d'avril. C'est-à-dire qu'on avance, l'année, elle se termine de plus en plus tôt. on a tous à l'esprit, élèves comme enseignants, que l'année, dès le mois d'avril, l'année paraît en passe de se finir. Ce qui est assez terrible quand on pense qu'on parlait, il y a une époque, de reconquête du mois de juin. Donc ça n'a pas de sens d'un point de vue de la précipitation des épreuves pour les élèves, donc les épreuves de spécialité qui viennent trop tôt, et ça n'a pas de sens non plus pour maintenir un niveau d'exigence sur tout au long de l'année. C'est-à-dire que l'année se termine de plus en plus tôt, et il est difficile de dire aux élèves que si, il faut continuer à avancer, sachant que même en hauteur, les échos qu'on a, c'est qu'on n'est pas des matières dans le tronc commun, des matières de spécialité, donc on est moins important, et donc il n'y a pas raison de mettre de pression plus que cela aux élèves. Et donc on se retrouve dans une fin d'année assez bancale, et faut pas oublier que la réforme Blanquer annonçait au départ des épreuves donc de fin de parcours pour toutes les matières, ce qu'on appelait les E3C. Les E3C ont été battus en brèche dès l'année du Covid. Là, aujourd'hui, il n'y a plus un seul examen. Chacun fait ce qu'il veut dans sa classe. On peut faire des type bac comme on ne peut faire aucun type bac. De toute façon, ça ne change rien pour le bac. Donc c'est un bac à la carte, c'est un bac qui ne vaut plus grand-chose malheureusement maintenant. Et c'est pour ça que les syndicats enseignants se battent aussi par rapport à ce bac qui est un non-sens. Il y a peu de temps, un collègue disait c'est quand même dommage, hein. Si seulement on avait un examen final avec toutes les matières qui prendrait place au mois de juin, on n'en serait pas là. Effectivement, l'examen final avec toutes les matières, ça s'appelait le baccalauréat et ça existait juste avant la réforme Blanquer. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Force est de constater que nous n'avons plus de baccalauréat national et un baccalauréat qui est sans doute au rabais.
Merci.
Voilà, donc Johan te rejoint un petit peu hein, sur... ce mois de juin qu'on devait récupérer, et en fin de compte, on perd pratiquement un trimestre. Il parlait de E3C, c'est quoi exactement Parce que alors là, je suis paumée. De la...
quand est sorti le texte de la réforme, je pense que c'était justement pour essayer de répondre au discours de beaucoup de syndicats sur le contrôle continu et les inégalités qu'il peut engendrer, garder quand même des examens nationaux dans un certain nombre de disciplines. Et donc, c'était prévu, alors je ne sais pas, puisque du coup, on ne les a jamais passés, c'était prévu l'année de première et l'année de terminale, peut-être en cours d'année, janvier, février, je ne sais pas exactement, et donc un examen. Alors, qui pour autant n'était pas national, il y avait une banque de sujets.
Il
fallait piocher parce que justement, comme ça a lieu en cours d'année, on n'a pas tous fait le même programme et les mêmes chapitres. Donc là, c'est pas comme les épreuves de SP, les programmes n'étaient pas imposés, on allait piocher. Peut-être que ça s'est fait une fois quand même la première année.
Et puis après, ça a été
Après, il y a eu le Covid qui est passé par là et ils l'ont pas. Ça, pour le coup, ils ne l'ont pas remis. Donc c'est. Ça n'existe pas.
Ça n'existe plus, d'accord. Donc, tu m'as dit que tu avais été surveillante hein, lors des épreuves de spécialité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le déroulement hein, de cette épreuve? Allez, on va faire une petite immersion dans le rôle d'un surveillant. Ça se passe comment?
La surveillance, c'est assez classique hein, comme toute épreuve. Donc, c'est des épreuves qui durent 4 heures. Et notre lycée était centre d'examen, donc on accueillait les élèves, nos élèves, et puis on est deux par classe, on surveille. Pour l'organisation de passage de ces épreuves de spécialité, c'était un lundi, mardi, mercredi, chaque jour, il y a chaque élève passe une épreuve. Enfin, sur deux épreuves, donc pas chaque jour sur lundi, mardi, mercredi, mais quand il vient au lycée, il passe une épreuve de 4 heures. Et en fait, comme il y a beaucoup de combinaisons possibles avec toutes les spécialités qui peuvent être ouvertes en théorie, on ne peut pas banaliser une journée par discipline, parce que sinon, là, pour le coup, ça ferait trop de jours de fermeture d'un établissement. Donc, sur chaque jour, on a plusieurs épreuves. Et pour que tout le monde puisse, quelle que soit sa deuxième spécialité, c'est pas évident, je ne sais pas si c'est très clair, mais passer quand même, il faut qu'il y ait deux journées pour deux épreuves pour chaque discipline, en fait. Donc, la spécialité spécialité maths, il y avait une première épreuve le lundi et une première épreuve le mardi. Parce que, par exemple, le lundi, en parallèle, il pouvait y avoir une autre spé et un élève n'allait pas passer le même jour sa spé physique et sa spé maths. Donc, en fait, s'il passait spé physique le lundi, il passait sa spé maths le mardi. Et l'élève qui avait une spécialité qui était programmée le mardi, il passait la spé maths du lundi.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et ce qui pose un problème supplémentaire, parce que finalement, de quel côté qu'on regarde, ce sont des nouveaux problèmes qui apparaissent. On a deux sujets, donc certes nationaux, mais deux sujets pour une même discipline. Et c'est très difficile d'avoir des sujets de difficultés vraiment égales. Et donc, c'est ce qui a notamment posé problème sur le sujet de mathématiques cette année. Ah. C'était une disparité de difficultés assez forte pour que l'ensemble des enseignants, enfin beaucoup d'enseignants, le fassent remonter auprès de l'inspection entre l'épreuve du lundi et l'épreuve du mardi.
Oui, ben oui, faut pas que ce soit identique, effectivement.
Faut pas que ce soit identique. Donc, ça, c'est vrai que ça, c'est pas évident. Mais néanmoins, il faut quand même le même niveau d'exigence. Et là,
mais par contre, je vais te couper juste deux petites minutes, excuse-moi, mais pour y remédier, il existe donc une harmonisation des notes qui avait déjà été mise en place plus ou moins l'année dernière. Oui. Alors, le ministre parle d'ajustement de notes de 0,5 ou 1 point sur un coefficient de 16. Hein, cela n'est pas négligeable pour 5 à 10% de notes. Oui. Mais qui organise cet ajustement? Ça se passe au niveau du lycée ou c'est au niveau du gouvernement?
C'est pas au niveau du lycée. Alors, il me semble qu'il y a des commissions. C'est pareil, je ne sais pas très clair. Enfin, c'est pas très clair. En tout cas, moi, je suis pas très informée là-dessus. Mm-hmm. Il y a une commission, je crois, au niveau académique, mais après, qui regroupe les inspecteurs pédagogiques académiques. Et il me semble avoir lu qu'il regroupe aussi quelques correcteurs, quelques enseignants qui ont participé à la correction. Et donc, ils décident ensemble. Et après, ça doit quand même être harmonisé au niveau national, plus qu'au niveau académique. Mais vraiment, je ne sais pas. Je peux pas en dire plus là-dessus. En tout cas, moi, en tant que correcteur, je n'ai pas été informée si on a bougé mes notes ou pas. Je n'en sais rien. Ce qui est aussi, là, encore un changement par rapport à ce qu'on connaissait dans le bac précédent, parce que les notes pouvaient être modifiées, mais elles étaient modifiées en jury, c'est-à-dire en présence du correcteur qui, au vu de la copie et du livret scolaire, pouvait dire « Oui, bon, c'est vrai que là, j'aurais pu mettre, parce que c'est jamais un demi-point près ou un point près une copie, j'aurais pu mettre un point de plus, un point de... » C'est rarement un point de moins, mais... Donc voilà, l'harmonisation se faisait en présence du correcteur. Là, les notes sont retouchées. Je sais pas exactement de quelle façon, et je sais pas si les notes que j'ai mises l'ont été ou pas, en fait.
D'accord.
Mais tu as corrigé les deux épreuves ?
Non, on était chacun a corrigé une seule épreuve.
Et pourquoi donc ? Ils n'ont pas permis la correction de deux épreuves. Ça aurait permis de voir si une ou deux épreuves étaient plus difficiles l'une que l'autre.
Mais oui.
Je pense que la correction d'une seule épreuve, là, pour le coup, c'était un confort pour nous, parce que ce sont des épreuves de 4 heures avec des barèmes qui sont très, très détaillés jusqu'à 0,25. Et quand on a un paquet de copies, on met un certain temps à avoir en tête le barème. Et c'est vrai qu'une épreuve, c'est plus facile à corriger que deux, où il faut réapprendre notre barème. Donc, on va quand même un peu plus vite. Donc, je pense que c'était aussi pour ça. Après, juste en faisant, nous, les sujets, puisqu'ils sont en public, hein, les sujets, une fois que l'épreuve est passée, on a pu s'apercevoir qu'ils n'étaient pas équivalents en difficulté. Ensuite, ce dont on n'a pas eu connaissance, c'est le barème qui a été utilisé. Moi, j'ai le barème qui est utilisé pour l'épreuve que j'ai corrigée parce que j'étais correcteur.
Mais
l'autre, j'en suis pas informée. Donc, c'est pareil, le choix du barème fait qu'on peut essayer de gommer déjà, avant la phase d'harmonisation, les différents.
D'accord, ben on va écouter Johan sur les heures restantes jusqu'à la fin de l'année.
Concernant les heures restantes, quel est ton avis et qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ces heures restantes?
Par rapport aux heures restantes, c'est assez complexe. C'est-à-dire que L'année se finit de plus en plus tôt, alors c'est lié à un calendrier qui n'est pas forcément bien établi. De toute façon, les heures restantes, les élèves déjà prennent à la carte. C'est-à-dire que j'ai eu l'année dernière des élèves qui ne venaient plus ou quasiment plus dans mes cours d'histoire, arrivés au mois de mai. Là, on a une particularité cette année, c'est qu'on est dans une année où il y a beaucoup de jours fériés qui tombent en pleine semaine, ce qui explique aussi, donc ces jours fériés qui tombent en pleine semaine, ça va expliquer le manque d'heures qu'on peut avoir ça et là pour certaines classes. Moi, par exemple, mes terminales, je ne les vois plus que 8 heures jusqu'à la fin de l'année. C'est relativement peu, c'est même extrêmement peu. Ce qui veut dire qu'on a effectivement un manque d'heures, mais ça ne changerait pas forcément grand-chose par rapport au bac. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un bac effectivement plus tard dans l'année pour permettre de travailler de manière plus cohérente tout au long du mois de mai. Là, on a un mois de mai qui ressemble très clairement à un pré-mois de juin, ce qui n'est pas une bonne chose.
Merci concernant cet avis.
Donc là, on voit bien que les vacances, on va prendre le cas des Hauts-de-France, hein, se terminent le 2 mai donc, et celle de l'île de France le 9 mai. Donc jusqu'au mois de juin, des professeurs se retrouvent avec très peu d'heures de cours avec les lycéens de première ou de terminale. Là, Johan disait effectivement qu'il ne lui restait plus que 8 heures pour les terminales. Puis, comme il le disait, les jours fériés au mois de mai, etc. Comment motiver professeurs et lycéens pour terminer le programme? Et tout à l'heure, on en parlait, est-ce que nous allons connaître plus d'absentéisme au niveau des lycéens?
Je ne sais pas, c'est difficile de savoir à l'avance. Après, à titre personnel, et c'est ce que j'ai dit aux élèves, moi, mon objectif, c'est quand même le programme, parce que même si c'est plus nécessaire pour le bac, ils en auront besoin l'année prochaine pour ceux qui poursuivent des études dans le supérieur. Donc voilà, je n'aurai peut-être pas le temps de finir intégralement, mais je sais que j'ai des chapitres que je vais faire, parce que je pense que pour leur formation, ils sont indispensables. Donc je vais les faire tant bien que mal, avec les élèves que j'aurai face à moi, et en essayant d'adapter un peu, mais c'est ma priorité.
Mais admettons qu'il y a des élèves qui ont loupé leurs épreuves de spécialité. Ils vont absolument vouloir réviser les autres épreuves qu'ils doivent donc passer, donc ils risquent d'être absents. Dans ce cas-là, pour le programme de mathématiques, en ce qui te concerne, qui va rester, est-ce que s'ils ne sont pas là, tu peux leur envoyer... Je ne sais pas, essayer justement de les motiver jusqu'au bout pour...
Je pense que
pour les études supérieures, parce que c'est important.
Le plus efficace pour ces élèves-là,
c'est d'être présent.
S'ils ont raté, c'est quand même d'être présent, parce que pour le peu qu'on a testé le travail à distance pendant le Covid, on a quand même, pour l'essentiel, constaté que c'était tout sauf efficace. Donc il n'y a pas... C'est à eux à être présents. Voilà, après moi je suis là pour les aider si ils ont des besoins spécifiques et s'ils m'en font part, mais je vais pas leur transférer systématiquement mon cours et ce que j'ai fait parce qu'ils ont choisi de ne pas venir. C'est à eux de venir, sachant que s'ils sont au rattrapage, ils peuvent être interrogés sur tout le programme. Donc ils n'ont pas intérêt à sécher les cours, quelle que soit la discipline. Après, peut-être qu'au vu des notes qu'ils ont, ils savent que soit ils l'auront pas du tout, soit ils l'auront déjà. Mais voilà, moi je vais faire avec les élèves que j'ai en face de moi, avec l'impératif de finir ce programme-là. Et voilà, il ne faut pas généraliser non plus. Il y a quand même des élèves qui sont là,
qui sont sérieux, qui sont
conscients
motivés,
que pour l'année prochaine, s'ils sont dans une classe préparatoire scientifique, ils ont besoin de ces connaissances et de ces notions-là, qu'elles sont importantes et qu'il faut qu'ils soient présents. Donc on va essayer de faire comme ça.
D'accord. Pour le bac général et technologique, les terminales passeront donc les épreuves du grand oral du 19 juin au 30 juin. Comment préparer le grand oral entre les jours fériés du mois de mai et une petite démotivation peut-être suite aux résultats connus des épreuves de spécialité?
Alors l'épreuve du grand oral, c'est une épreuve qui est particulière et du coup sa préparation est très variable d'une discipline à l'autre. Et là aussi, c'est encore une source d'inégalité supplémentaire, parce que moi je vous parle de la spécialité mathématique, du programme que je vais finir. C'est peut-être pas forcément le cas dans les autres spécialités qui vont du coup choisir d'utiliser leurs heures, parce qu'on n'a pas des heures ciblées grand oral, qui vont peut-être choisir choisir d'utiliser leurs heures de spécialité du mois de mai pour préparer ce grand oral, alors que moi, clairement, ce ne sera pas ma priorité. Sur le papier, en tout cas, tel que c'est présenté par la réforme, c'est un travail qu'ils doivent faire essentiellement en autonomie. Et nous, on est là pour les y aider, pour les guider travailler comme ça par des échanges au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur réflexion, l'élaboration de leur sujet. Ils peuvent venir vers nous, mais c'est aussi à eux de faire cette démarche-là. Donc voilà, donc on va faire comme ça. Et si pour ceux qui veulent et qui seront là, je proposerai, on l'avait fait avec quelques collègues de maths l'année dernière, des séances d'oraux blancs. Mais jusque-là, jusqu'à la fin, en fait, ce sera à eux de travailler et des échanges, soit par mail, soit ils me donnent leur papier avec leur trace écrite. Mais voilà, les heures de maths, elles seront consacrées au programme. Mais encore une fois, je pense que c'est très variable d'une discipline à l'autre.
D'accord. Ça fait tard, non, pour passer le grand oral le 19-30 juin, pour une fois qu'il y a quelque chose qui est pratiquement à la fin de l'année
C'était placé à peu près sur ces périodes-là, les années précédentes. Donc, je ne sais pas, en fait. Il y a d'abord l'épreuve, les écrits de philosophie de philo. De français qui ont lieu, et après, il reste ça.
Mais qui choisit le sujet de l'oral?
C'est eux. En fait, il faut qu'ils ont deux sujets à préparer en lien avec leurs deux spécialités. Donc c'est à eux de choisir un sujet qui les intéresse. C'est vraiment libre à partir du moment où il y a un lien assez clair avec le programme de l'enseignement de spécialité. Ils ont deux sujets, donc soit ils choisissent un sujet en lien avec chacune des spécialités, ou alors des sujets qui mêlent les deux spécialités. Et ensuite, le jour de... Donc, ils préparent ces deux. Et le jour de l'épreuve, c'est le jury qui choisit le sujet sur lequel il va entendre le candidat.
D'accord. Et le grand oral, c'est combien de coef? C'est beaucoup, non?
Une colle.
Je ne sais pas. Plus en tête.
Je crois qu'il doit être important aussi.
Important aussi, oui.
Quelqu'un à Internet, là, pour chercher.
On n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones.
Ah, mince. Donc, on va écouter la dernière interview de Johan sur les améliorations à apporter pour lui.
Quelles seraient, selon toi, les améliorations à apporter pour avoir un peu plus de cohérence par rapport à cela?
Pour gagner en cohérence, il faudrait déjà avoir les épreuves finales qui aient lieu bien plus tard dans l'année, donc éventuellement au mois de juin, au moment du grand oral. Le grand oral a lieu fin juin, et on se retrouve avec des spécialités qui ont lieu fin mars. Donc bon, ça a du sens, d'avoir le grand oral fin juin, ça a du sens. Ça permet aux collègues qui ont préparé les écrits de préparer les oraux avec les élèves jusqu'au mois de juin. Simplement, il faudrait qu'il y ait davantage d'épreuves à la fin d'année réelle, plutôt que des épreuves en milieu d'année comme cela, surtout qu'avec un coefficient 16, encore une fois, hein, si les élèves ont des bonnes notes, ben, ils sont démotivés aussi pour le tronc commun, sachant que le tronc commun a un coefficient bien moindre, donc en contrôle continu. Et puis, si les élèves ont des mauvaises notes, ça les stresse beaucoup plus, et c'est parfois compliqué de rattraper ça avec le tronc commun. Mais il y a plein de problèmes dans ce bac, un problème sans doute de coefficient, un problème de calendrier, il y a plein de problèmes, et le problème c'est que ça ne sera pas réglé puisque c'est la majorité en place qui a refait ses programmes, et ces programmes ne bougeront sans doute pas avant bien longtemps. Donc on a supprimé le baccalauréat tel qu'il était avant 2020 pour un baccalauréat qui est aujourd'hui malheureusement un baccalauréat au rabais, et ça tout le monde le sait, les élèves comme les enseignants, comme les enseignants du supérieur, tout le monde sait que ce bac a énormément de problèmes.
Mais dans la finalité Parcoursup, maintenant ça devient quand même une bonne chose ou c'est bien assimilé?
Comment ça, Parcoursup? Parcoursup, aujourd'hui, c'est un système qui n'est pas forcément moins bon que admission post-bac, ce qu'il y avait avant. APP était sans doute un... Après, Parcoursup n'est pas mauvais en soi. Il y a eu des progressions, notamment sur les retours pour les élèves. Ça s'est amélioré entre la première année et l'année dernière, par exemple.
D'accord. Merci, Johan. Et bonne fin de journée.
Merci, bonne journée.
Donc là, on vient d'entendre un petit peu, Johan. Qu'est-ce que tu as rajouté, toi, Géraldine, sur quelques améliorations à apporter en priorité. Qu'est-ce qu'en pense le SNES, par exemple ?
Alors, le SNES serait pour, à moyen et moyen terme, repenser un petit peu, remettre à plat tout ça. Mais si on doit parler à court terme de points à améliorer sur certes réformes, il y a effectivement retrouver des épreuves nationales et terminales au mois de juin. Je pense que ça, c'est un premier point sur lequel beaucoup de collègues se retrouvent. Il y a aussi le problème de la spécialité qu'on abandonne. Les élèves doivent choisir 3 spécialités en première et n'en garder que 2 en terminale. C'est pas évident de savoir quelle
le choix
spécialité. C'est très difficile.
Pourquoi leur avoir fait prendre 3 et puis après en garder seulement 2? C'était pour avoir une ouverture un peu plus... au niveau du métier futur ou...
Je ne sais pas, parce que supprimer une spécialité, à l'inverse, ça leur ferme des portes aussi par rapport aux attendus de Parcoursup. Alors, est-ce par rapport à... Parce qu'il y a aussi, quand une réforme est mise en place, derrière des impératifs, je pense, de moyens, qu'ils soient humains ou budgétaires. Donc, ça, une spé en moins en terminale, c'est des heures de cours en moins. Peut-être que ce n'est pas du tout ça la raison, mais à vrai dire, je n'en sais rien. C'est vrai que conserver les 3 spécialités en terminale, ça permettrait une certaine stabilité pour les élèves, éviter ce choix très difficile au moment de la première, de savoir quelle spécialité abandonner. En tout cas, c'est une des pistes d'amélioration qui est proposée par le SNES. Supprimer effectivement le contrôle continu si on repasse à des épreuves nationales et terminales au mois de juin. Revoir un petit peu les programmes et les épreuves, notamment peut-être le grand oral qui tient compte peut-être trop de la forme et donc de quelque chose que l'on n'enseigne pas directement aux élèves, davantage que le fond et les notions que l'on voit en classe. Supprimer aussi les éléments de Parcoursup qui en font une plateforme de tri social. J'ai parlé tout à l'heure de la fiche à venir. Il y a tout ce qui est lettre de motivation aussi.
Oui, c'est ça aussi.
Et, peut-être revoir ce principe de non-hiérarchisation des vœux qui ralentit le processus et peut amener, on l'a dit, certaines formes de... à minima d'inconfort, voire de stress ou d'angoisse pour un certain nombre d'élèves et de fait de familles aussi.
Oui, parce que certains élèves, arrivés au mois de septembre, ils n'ont toujours pas de place en supérieur, et notamment même s'ils ont eu des bonnes notes au bac.
Ça peut arriver aussi. Et un dernier point qu'on n'a pas évoqué, alors qui peut paraître anecdotique peut-être, mais reconstituer aussi la classe comme groupe de travail, parce que un des effets de la réforme, c'est de travailler sur des... on travaille avec des groupes et plus des classes. Donc les élèves ont leur classe de terminale dans laquelle ils suivent les disciplines du tronc commun. Et puis ensuite, quand ils sont en spécialité, ils sont regroupés. C'est vrai que ça complexifie l'organisation en termes d'emploi du temps. Et c'est compliqué pour nous, pour le suivi des élèves. Moi, mon groupe de spécialité, tel qu'il est, je suis la seule à l'avoir, puisque le groupe d'une autre spécialité, il regroupera d'autres petits élèves. Donc c'est vrai que par rapport à une classe qu'on partage, pour échanger avec l'équipe pédagogique, c'est plus compliqué. Moi, je vais avoir un élève qui est de telle terminale et donc tel prof principal, un autre. Et j'ai comme ça tout un tas d'élèves. Donc le suivi des élèves pour les échanges, il n'y a plus de notion ou beaucoup moins d'équipe pédagogique. Et d'ailleurs, ça rend les conseils de classe
compliqués.
Assez compliqués. On est pléthore d'enseignants autour de la table pour quelques élèves quand on est en spécialité. Donc, c'est... Et pour les élèves, pour suivre aussi quand il manque un cours. Moi, ça m'est arrivé cette année avec quelques élèves de demander, mais qui est-ce qu'il y a quelqu'un de sa classe pour lui faire passer des cours. Tous ces petits trucs, c'est des petites difficultés, alors qui ne sont pas peut-être énormes, mais qui se rajoutent à tout le reste et qui ne facilitent pas, je pense, et le travail des élèves et le suivi de la part des enseignants.
Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de cette mise en place de ces spécialités. Est-ce que c'est une bonne chose pour les jeunes ?
C'est difficile à dire parce que ça tout dépend de la façon dont c'est mis en place. Là, en l'occurrence, c'est la façon dont ça a été mis en place est pas convaincante. Après, on pouvait garder, je pense, les filières transformées en faisant qu'elles soient peut-être un peu plus ouvertes.
Les filières scientifiques, littéraires, etc.
Oui, voilà. Parce que finalement, en filière S, ils avaient aussi un enseignement renforcé en physique, en SVT, en maths. Alors, peut-être renforcer d'autres types d'enseignements pour avoir une culture générale commune dans la plupart des disciplines et pour pas se cantonner à des matières scientifiques ou des matières littéraires ou des matières économiques. Mais voilà, je pense que c'était pas forcément contradictoire. En tout cas, là, tel que ça a été pensé et mis en place, c'est pas vraiment convaincant. Et d'autant que je suis dans une discipline où la mise en place a posé problème parce que les mathématiques ont... Il y a plein de domaines dans le supérieur qui en ont besoin, mais qui ne nécessitent pas le même niveau de connaissances pour aller vers l'économie ou pour aller vers des enseignements scientifiques. Donc l'unicité de cette spécialité, elle n'est pas forcément adaptée pour la suite. Donc bon, il doit y avoir d'autres possibilités de mise en place. En tout cas, celle-là me semble peu efficace.
D'accord. La réforme donc, qui date de 3 ans, hein, était-elle nécessaire ? Est-ce qu'on peut dire même que le bac est-il devenu obsolète ou pas ?
La réforme, en tout cas, on pouvait constater, mais depuis pas mal de temps déjà, que ces fameuses filières, elles étaient très déséquilibrées, qu'il y avait une hiérarchie entre ces filières. C'est vrai qu'il y avait quand même la filière S qui absorbait beaucoup d'élèves et beaucoup de très bons élèves qui, pour autant, n'avaient pas comme projet de poursuivre dans des études scientifiques. Donc il n'y avait pas forcément de cohérence entre le choix de la filière S au lycée et la poursuite. Donc ça pouvait poser problème. Mais ce problème n'a pas été résolu pour autant, parce qu'on peut reformer plus ou moins les filières et les maths peuvent rester quand même une discipline sélective. Quant au bac obsolète, je donnerai la position du SNES, mais qui me convient, c'est que il y a une nécessité et un intérêt à garder un bac comme diplôme.
Premier examen en fin de compte,
voilà.
C'est ça.
À la fois un examen terminal en fin de lycée et un premier diplôme qui ouvre sur le supérieur et garantit une poursuite d'études, parce que ça donne déjà au lycée un même point de mire pour tout le monde qui a en ligne de mire cette exigence commune, ce niveau. Après, donc en ça, le bac ne paraît pas obsolète. Mais ça n'empêche qu'il avait été plus ou moins au fil des réformes dénaturées. C'est vrai qu'il ne suffisait plus pour aller dans le supérieur pour un certain nombre de filières sélectives, mais rien ne nous empêche de le garder quand même et de repenser le contenu des épreuves, la nature des épreuves et des exigences qu'on a là-dessus.
On peut changer peut-être un petit peu les programmes, comme tu le disais. Dernière question, comment démocratiser l'accès aux grandes écoles ?
Alors là. C'est une bonne question.
C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Elle se referme peut-être de plus en plus.
Comment ?
Elle se referme peut-être de plus en plus.
Jackie dit elle se referme de plus en plus.
Qu'est-ce que de plus en plus d'inégalités par rapport au territoire.
Oui, par rapport au territoire. Alors après, il y a des classes préparatoires aux grandes écoles, justement, qui existent dans des lycées comme nous à Compiègne et dans un certain nombre de petites villes qui peuvent être intéressants parce que comme c'est des classes préparatoires de proximité, alors qu'ils n'ont pas la renommée des grandes écoles, mais qui sont du coup plus accessibles.
Plus accessibles.
Pour tous et peuvent être un outil pour aller envoyer plus d'élèves vers ces grandes écoles.
Mais
là, je ne sais pas.
Bon, on fera une émission là-dessus parce que Luc nous fait signe que c'est terminé.
Eh bien voilà, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Géraldine d'être venue parmi nous. Cette émission Pédago Rando sera diffusée pendant le mois de mai, le vendredi 5 à 19h, le lundi 9 à 16h30, le samedi 27 à 17h et le mercredi 31 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera l'école maternelle. Merci à Luc à la technique. Chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulcien.fr. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'un Brand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tout beaucoup.